Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter d'un des chefs de file de la nouvelle vague taïwanaise. Il s'agit de Edward Yang. La majorité de ses films est ressortie chez Carlotta Film, dans notamment deux coffrets, enfin un coffret 2K et 4K, et puis une édition collector et en 4K d'un autre de ses films, Yi Yi, qui est peut-être son plus grand film, on en reparlera. Côté musique, vous découvrirez ou redécouvrirez Black Rebel Motorcycle Club avec deux morceaux. Alors, Devil's Waiting et Ain't No Easy Way de l'album Howl. Popcorn et Banjo, la 16e, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti!
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Alors, Edward Yang, il est né en 1947 à Shanghai et puis il est mort en 2007 à Beverly Hills. Ça vous dit déjà la trajectoire du personnage. À sa date de naissance, on comprend évidemment quelque chose de très important. Il est né pendant la guerre civile chinoise, hein, qui s'étend plutôt de 1927 à 1949. Et puis elle oppose la Chine communiste de Mao à la République de Chine de Chiang Kai-shek. Hein. Donc Chiang Kai-shek la République de Chine vont s'exiler en 1949 sur Taïwan et puis un cheptel d'îles autour, hein, environ 170 îles, un peu moins, 168 autour, pour s'installer là-bas. Et donc Edward Yang, il va grandir dans cette... c'est une dictature extrêmement dure, hein, du Kuomintang, dirigée par Chiang Kai-shek, à Taïwan. C'est une des plus difficiles au monde, hein, qui va s'écouler de 1949 aux années, en gros, fin des années 1978 à peu près. Hein. Je crois que Chiang Kai-shek se quitte le pouvoir en 1975 et puis tout ça s'arrête en 1978. Il est le chef de file de la nouvelle vague taïwanaise qui va inclure à ses côtés Hu Xiaoxian et puis un peu plus tard Tsai Ming Liang. Et Edward Yang, si j'en crois Olivier Assayas, qui est très présent dans les bonus du magnifique coffret chez Carlotta de quatre films de Edward Yang, il ouvre un petit peu la voie aux autres. C'est un peu le premier, celui qui va faire tomber les barrières et qui va se lancer dans cette nouvelle vague taïwanaise. La nouvelle vague taïwanaise, en gros, hein, elle contraste avec les films d'action des décennies précédentes. Elle contraste fort avec le cinéma hongkongais aussi. C'est un type de cinéma connu pour une forme de réalisme des portraits de la vie taïwanaise. En revanche, c'est au niveau de la structure narrative qu'il y a beaucoup de modernité, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de très classique, hein, avec un climax et puis des personnages qui vont d'un point A à un point B, en passant par, A', B', etc. On est vraiment sur une narration assez explosée, où on s'intéresse aux trajectoires des personnages avec une certaine errance, quoi. On est assez proche, d'ailleurs Edward Yang était très influencé par Antonioni notamment. Une particularité d'Edward Yang par rapport à, par exemple, Hu Xiaoxian, Hu Xiaoxian, il va beaucoup s'intéresser à la vie des campagnes, là où Yang, il se plaît dans les villes. C'est un urbain et c'est ça qui va mettre en scène, qui va montrer, qui va dévoiler avec ses images. Voilà, voilà pour la petite présentation. Alors avec Charles, on a traversé plusieurs de ses films. Hein. Il a fait 7 longs métrages, Edward Yang. Et puis nous, on en a vu 5. Et donc on va un petit peu revenir sur ses films en s'attardant notamment sur 2 qu'on a beaucoup aimés. Mais en gros, il a fait donc Taipei Story en 85, Terrorizer en 86, A Bright Summer Day en 91, Mahjong en 96 et Yi en 2000. C'est les 5 films qu'on a vus de Edward Yang.
Et je rajoute quand même, il a fait quand même That Day on the Beach en 83 aussi.
Que je n'ai pas vu.
Moi non plus.
Oui, oui. Il en a fait un autre, il en a fait 7, mais Confucius... Confucius...
Confusion chez Confucius.
Exactement, merci. Alors d'abord, Charles, j'ai envie de te demander, sans forcément rentrer dans le détail pur, c'est quoi Edward Yang pour toi, après avoir traversé un peu ses films? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché, quoi?
Bah écoute, Edward Yang, surtout, j'avoue, c'est un cinéaste que j'ai découvert là, cet été à la base, puisqu'il y a eu une rétrospective, je crois c'était à la Filmo ou peut-être au Reflet, à Paris en tout cas. Et où j'ai eu la chance de voir, pas l'intégralité de ses longs métrages, mais quasiment, j'ai vu Brighter Summer Day, j'ai vu Yi Yi au moins, au cinéma, qui sont quand même des films qui durent, qui sont un peu assez consistants, quoi. Ça dure 3 heures et 4 heures. Du coup, ce sont vraiment des expériences de cinéma. Et c'est vrai que, une fois qu'on a vu ces deux films-là, ça calme un peu sur le reste de sa filmo. Et effectivement, j'ai pas eu le temps de regarder les bonus DVD, mais effectivement, on sent qu'il traverse, enfin vraiment, il y a une espèce de, quand on fait la politique de l'auteur, on va dire, et on sent qu'il traverse les mêmes états d'âme, et on sent qu'il va traverser un peu les mêmes errances, les mêmes manies, etc. Ce qui fait que, quand on va regarder petit à petit tous ces longs métrages, on sent effectivement des idées qui réjaillissent dans un long, puis dans un autre, puis dans un autre. Et c'est vraiment, c'est Paris, et moi encore plus Brighter Summer Day, qui est de 91, quelque chose comme ça, donc 10 ans plus tôt.
Enfin, ouais, c'est ça.
Où moi, il a un truc de vie qui me fascine grandement, quoi. Il y a une ampleur dans ces deux films-là qui sont assez grandioses, que je ne retrouve pas forcément dans les autres, mais qui reste quand même une peinture un peu de ce qu'était certainement ce pays à l'époque. Et j'ai vraiment découvert un cinéaste à ce moment-là, en tout cas pour moi.
Ouais, non mais je suis d'accord, c'est la grande découverte de patrimoine, je pense qu'il rentre dans le cinéma de patrimoine. C'est pas très clair pour moi ce que c'est que le cinéma de patrimoine, mais...
Ouais, pour moi, le cinéma de patrimoine, pour moi, c'est genre, si ça a plus de 10 ans, ça rentre dans le cinéma de patrimoine.
Ok, donc on va dire que selon ces codes-là, il est complètement dans le cinéma de patrimoine. Son dernier film, c'est Yi, qui recevra le prix de la mise en scène à Cannes, hein, en l'an 2000. Ouais. Donc c'est aussi un peu une forme de ça y est, une reconnaissance critique internationale, mais oui, c'est sûr, c'est la grande découverte de cette année. On a la chance d'avoir à disposition le matériel de Carlotta Film, et puis sur Universciné il y a A Brighter Summer Day et Taipei Story, qui sont les deux qui sont pas à ma connaissance pas en support physique en ce moment, donc vraiment on peut découvrir tout son cinéma. D'abord, je m'y suis intéressé grâce à toi. Tu m'as vraiment dit, voilà, c'est une de mes découvertes de l'année, donc j'y suis allé. Et puis, j'ai découvert un peu ce que tu dis, un grand cinéaste du portrait, de la nostalgie aussi. Il y a une forme de nostalgie latente un peu dans tous ses films. Et puis du portrait, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à... vous verrez, quand vous découvrirez ses films, il y a rarement, en tout cas dans ceux que j'ai vus, il n'y a pas... simplement un ou deux personnages. C'est explosé entre parfois 10-15 histoires. D'ailleurs, c'est pas toujours simple à suivre, mais il va toucher à toutes les générations. Par exemple, dans A Bright Summer Day, il y a à la fois des très jeunes enfants, quoi, et puis des ados, et puis des adultes, et puis des gens de toutes les classes. Voilà, il y a un côté fresque, presque, qu'on pourrait retrouver chez Altman, un peu, où tout d'un coup, c'est 15 personnages principaux. Donc voilà, grand cinéaste du portrait, de la nostalgie, parce que il y a cette forme comme ça, latente de... à la fois un peu de comédie, mais toujours un peu sur un... Je trouve qu'il y a toujours un fond un peu triste, un peu dépressif, quoi. Même Brighter Summer Day, la fin est quand même hyper dure et inattendue. il y a une forme comme ça aussi de fatalisme un peu. Je sais pas si tu vois, et puis tu sais, si tu te souviens, dans Brighter Summer Day, il y a au moins deux ou trois plans, je crois qu'il y en a deux, où t'as vraiment ces deux adolescents amoureux là, qui sont quand même au centre de l'histoire, qui se baladent, et puis au premier plan, t'as juste des chars qui passent pendant trois minutes, des chenilles de tank, parce qu'on est en longue focale. Il y a une forme comme ça de, ouais, de nostalgie, un peu de fatalisme, quoi. Fatalité.
Ouais, ça dépend effectivement des films. Je pense que dans les... Parce qu'en fait, étonnamment, ce sont des films qui... Enfin, étonnamment ou pas, je sais pas, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on retrouve dans un certain cinéma asiatique, où parfois, le film est très calme, très doux, en tout cas, quelque chose de très posé, très lent, quand même, assez contemplatif. En un sens.
Assez Antonioni, hein, en fin de compte.
Et après, à la fin du film, il y a une espèce d'explosion de violence qui, moi, me gêne un peu, parce que je pense que j'ai parfois pas l'habitude de cette structure-là narrative, et donc j'ai l'impression que c'est un peu... On se débarrasse des personnages et puis au revoir, quoi. C'est un peu le cas dans Mahjong, c'est un peu le cas aussi dans The Terrorizers, où il y a un moment où je pense qu'Edward Young veut dépeindre quand même son pays, et je pense aussi, moi c'est comme ça que j'ai découvert aussi, parce que moi je connaissais pas du tout Taïwan, Taipei, enfin j'avoue, je suis pas très pointu dans ce domaine, quoi. Et je pense qu'il a vraiment, effectivement, il veut montrer aussi une certaine violence qui était ancrée aussi dans son pays à l'époque, et puis, donc il y a des films qui sont comme ça, et puis d'autres films effectivement qui sont plus doux, plus tendres, plus nostalgiques, et parce que si, qui sont presque plus des fresques historiques, voire des faits divers et des faits réels. C'est-à-dire que Brighter Summer Day, c'est un fait divers qui s'est passé dans les années 50, je crois, qui a vraiment marqué le pays, et en fait, à travers ça, il a voulu parler d'une façon plus ample, plus globale de quelque chose, quoi. Mais ça, peut-être on en reparlera quand on abordera le sujet, mais... Pardon. Mais effectivement, on va dire que Edward Young, à la fois, comme tu disais, fait des grandes fresques sociales, souvent d'ailleurs, quasiment tout son cinéma c'est ça, et parfois, va, en même temps qu'il mélange cette nostalgie, cette douceur, cette tendresse, il va parfois partir aussi dans des excès un peu.
Tu parlais du fait divers de Brighter Summer Day. Est-ce que tu le savais avant de découvrir le film? Parce que moi, j'ai vraiment découvert à la fin du film, il y a un titre, quoi, un titrage qui explique l'année où s'est passé ce fait divers, etc. Que c'est un fait divers officiel, qui a existé, etc. Tu savais tout ça ou pas?
Oui. Oui, je m'étais un tout petit peu renseigné avant, parce que comme c'était, je connaissais pas encore Edward Young et que j'ai vu que le film faisait 4 heures, j'ai eu un peu peur au début. J'ai fait bon, faut que je me renseigne un peu de quoi ça parle, parce que j'ai pas envie d'être coincé pendant 4 heures en fait. Mais oui, j'en ai entendu parler. Après, ça m'a, même en sachant ça, ça m'a pas forcément donné beaucoup de contexte finalement au film, parce que bon, de toute façon, encore une fois, je connais pas très bien Taipei années 40, enfin plutôt années 50, gang de gamins et tout. Je connaissais pas grand chose là-dessus. Et en plus, je pense que finalement, ce fait divers est vraiment un prétexte pour parler d'une façon plus ample, encore une fois, du pays, quoi.
Après, moi, j'ai eu la surprise finale, j'avoue. Je savais pas du tout que c'était une histoire vraie. Je savais juste que... Alors, A Brighter Summer Day, c'est pas simple à expliquer parce qu'il y a plein de sous-intrigues. Mais en gros, hein, tu me dis si je me trompe, mais c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment l'histoire de plusieurs gangs de jeunes qui grandissent à Taipei, et à Taïwan donc, et qui s'affrontent. Et puis c'est mêlé à... donc c'est sur plusieurs années, et c'est mêlé à l'arrivée aussi de toute l'Americana, avec la musique rock des années 50. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, hein, Edward Young, il a un peu cette double culture, parce qu'il a étudié aux États-Unis aussi. Il est mort à Beverly Hills, mais je crois qu'il a étudié à Seattle. En tout cas, il a étudié aux États-Unis. Donc il connaît aussi ce sujet-là, et il en parle très bien. Et dans tous ses films, ou presque tous ses films, il y a des, comme ça, il y a des inserts un peu de l'Amérique. Il y a des photos de Elvis, il y a des photos de Marilyn Monroe dans Taipei Story, par exemple. Donc il y a toujours cette espèce d'ambivalence de ping-pong entre les États-Unis et Taïwan. Bref, et donc c'est des jeunes gangs qui s'affrontent. Et puis au milieu de tout ça, il y a les histoires d'amour entre gangs, enfin entre une fille et un garçon de deux gangs différents, il me semble. J'ai un petit doute là-dessus, mais enfin
non,
en tout cas.
Pas la fille, mais.
Il me semble qu'à un moment, on lui dit toi, tu fais partie de notre gang, qu'est-ce que tu fous avec lui, etc. Si, si, je crois.
De toute façon, ça gravite un peu, mais effectivement, c'est simplement en fait une histoire d'amour dans le Taipei post-guerre, enfin post. années 50,
ouais.
Et qui en fait finalement va, à travers ça, en fait, Edward Young va parler de la politique de son pays,
de la jeunesse,
de la jeunesse, de comment on voit l'amour à cet âge-là, dans ce pays-là. Ça va parler aussi quand même, mine de rien, de la politique, mais vraiment dans le sens, on va dire, espionnage. Il y a le récit est là pour te faire comprendre absolument toutes les ramifications qu'il y a dans cet état, quoi.
Aligre FM 93.1.
Et moi, j'avais trouvé ça complètement fou. J'ai l'impression d'avoir en même temps vécu une histoire d'amour, en même temps vécu un film d'espionnage, en même temps avoir vu un film de gang. C'est en même temps très lent, très doux, très mélancolique. Et on sent qu'Edward Young a réussi à créer un petit fantasme autour de ça. Et en même temps, il y a des moments très très abrupts, très durs, où on se demande jusqu'où ça va aller, quoi.
Et... Je sais pas si tu te souviens, à un moment, ils sont dans cette école le soir et y a un gang qui a rattrapé un autre gang et il y a un des jeunes héros du film et le chef de gang adverse qui prend une brique, tu te souviens ou pas de ça,
ouais.
Et qui lui met un énorme coup de brique dans la gueule et mais enfin pareil quoi, c'est il y a un côté tellement c'est très réaliste en fait, c'est très froid, c'est très réaliste et c'est vrai qu'il y a, c'est ce que tu disais, il y a ces explosions un peu de violence qui sont pas du tout, mais alors pas du tout stylisées et un peu parsemées dans ses films. Et puis il termine beaucoup de ses films, là pour le coup parfois c'est un peu plus stylisé, mais dans une scène de violence, et je suis assez d'accord avec toi que ça, parfois ça tombe un peu des nues, enfin on tombe un peu des nues et on capte pas ça, quoi. Enfin bon, pardon, je t'ai coupé, mais vas-y.
Non, pas du tout, t'inquiète. Mais effectivement, il y a des moments de violence qui sont un peu intense, quoi. Il y a des scènes vraiment où c'est presque chaotique, quoi, quand même, dans le film, en tout cas dans Brighter Summer Day. Et en même temps, encore une fois, en fait, c'est ce que j'ai adoré, et je pense que j'aurais la même réflexion sur Yi, alors que ça a été fait quasiment 10 ans plus tard, et qu'entre les deux, il a fait des films que j'ai trouvé un peu moins bons, en tout cas. C'est que, à force, je pense, de faire des films qui durent 3h, 4h, Et la narration, je sais pas, je pense que tout m'a touché, mais j'ai l'impression de voir vraiment des grands morceaux de vie. J'ai plus l'impression de voir seulement un film, et c'est une sensation qui est assez rare, en tout cas de mon côté. Cette sensation-là de me dire, en fait, j'ai vraiment, enfin en tout cas plutôt un réalisateur, a réussi à capter, même par la fiction, une grande partie de réalité. Et vraiment, je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'exemples comme ça à donner. Certainement certains films de Tarkovsky aussi que j'ai vu il y a pas si longtemps où je trouve qu'il arrive comme ça à insuffler des choses tellement vraiment une véracité dans son propos, mais en plus de par la frex de faire comprendre, de faire ingérer des problématiques inconnues de mon côté, quoi. Et moi je suis franco-français, je connais que les problèmes de mon pays et encore moins, et pas forcément ceux, un peu moins ceux des autres on va dire, et encore moins dans les années 50, 60, 70, 80. Et ce genre de film t'ouvre une réflexion, t'ouvre une culture, t'ouvre une porte, en même temps une réflexion, bien sûr, on va dire, émotionnelle, mais aussi t'ouvre quand même des réflexions sur comment ça se passait à Taïwan à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est... Il y a un moment où quelqu'un se fait interpeller par la police secrète. Enfin, il y a plein de choses, et c'est en même temps très doux, et en même temps, il te prend... Ouais, il te prend un peu par la main pour te faire comprendre vraiment ce que c'était, ce que c'était, quoi. En tout cas, une partie de son pays. Et je trouve ça vraiment très, très, très beau.
Mais il a quelque chose de... Edward Young, un peu pour prolonger un peu ta pensée, c'est un cinéaste qui, je pense, gagne, en tout cas a gagné dans ses films à traiter les sujets sur des très longues temporalités. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Pour le coup, je trouve que les grands films d'Edward Young sont les films qui durent 3h40, 3h. Et j'ai aussi beaucoup plus de mal, alors pas tous, il y en a que j'ai vraiment bien aimé, mais avec ces films à durée un peu plus traditionnelle, quoi. Je trouve qu'il s'épanouit moins quand il faut aller vite. Et justement, il y a un côté qui semble... dans Terrorizer, moi j'aime bien la deuxième partie, mais j'ai vraiment du mal avec la première heure. Mais par exemple, Mahjong, je trouve que la fin tombe un peu. Tout d'un coup, il faut aller très vite, il faut conclure le film. Et je trouve que ça marche moins, alors que quand il a le temps de s'exprimer et qu'il se donne ce temps-là avec ces deux très grands films, A Brighter Summer Day et Yi-Yi, ça lui va mieux, quoi. Et il y a quelque chose d'envoûtant, justement, aussi dans son cinéma. Il y a quelque chose, comme tu dis, c'est pas du tout du documentaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On voit que c'est une facture de fiction. Tu sais, il y a des films à la frontière, quoi.
Non, et puis c'est vraiment magnifique. Même moi, je commençais à regarder sur. Enfin, bon, bref, j'étais avec ma copine à côté qui en avait un peu rien à cirer. Et vraiment, je sais pas, elle avait son casque en plus aux oreilles, donc elle entendait rien, quoi. Et parfois, elle regardait, elle faisait, mais qu'est-ce que t'es en train de regarder, quoi. Et même elle était en mode, mais c'est vraiment, c'est magnifique, hein. Franchement, en plus de bien écrire, j'ai envie de dire, et vraiment, il a une mise en scène. Mais même dans The Terrorizers, hein, que j'ai moins aimé aussi, je trouve qu'il y a des plans, mais qui sont, mais magiques, vraiment.
Ouais, globalement, c'est toujours la mise en scène est toujours très belle et très riche. Non, c'est simplement ces structures narratives qui sont un peu bizarres. Par exemple, dans Mahjong, qui est le premier film où il fait vraiment venir des étrangers, je crois, où il dirige une étrangère, une française, le doyen, merci, qui est quand même assez extraordinaire dans le film. Il filme les femmes, d'ailleurs tous, hein, mais il fait des portraits de femmes parce que l'actrice de Taipei Story aussi, je la trouve vraiment très très bien filmée. Mais bon. Là, on est sur des structures narratives où Mahjong, il parodie aussi les films de gangsters, etc. Ça marche moins, c'est un peu lourd. Et il y a cette espèce de dernière scène qui est comme une capsule où tout d'un coup, la narration reprend une linéarité. Hein. C'est Virginie Le Doyen qui retrouve la personne qu'elle aime au milieu de la rue de Taipei la nuit. Et ça marche, mais tout le reste, le côté explosé, marche moins. Je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Il y avait un truc que je voulais. Ah oui, sur la violence, on parlait de la violence.
Peut-être aussi la structure narrative des structure films narrative, globales, où, ouais. Justement, où justement il s'épanouissait un peu plus dans les films longs.
Exactement, merci. Et là, c'est vrai que Mahjong, par exemple, le film a un peu le cul entre deux chaises, si j'ose le dire. Mahjong, c'est en revanche, c'est très très dur. Hein. C'est le rapport de ces jeunes détestables qui prostituent, enfin qui se partagent la même meuf entre eux. C'est vraiment une bande de potes un peu truands, dont l'un des jeunes, son père est pour le coup un vrai truand de métier, de carrière, si on peut le dire comme ça. Et qui est recherché parce qu'il doit du fric à d'autres truands, et comme il a disparu un peu de la circulation, on suit son fils. Et son fils fait partie, c'est le petit chef, la petite racaille, quoi, d'une bande. Et puis cette bande de frères de cœur se partagent leurs conquêtes, mais franchement, il y a une scène qui est franchement une scène de viol, hein, où il se passe la fille l'un après l'autre, qui est hyper dure. Parce que comme il y a un peu le ton de la rigolade aussi, on comprend pas très bien. C'est très premier degré dans la mise en scène, mais les personnages sont au départ un peu dans la rigolade, et comme on vient de les découvrir, on a du mal à savoir si c'est des salauds ou pas. C'est assez gênant, moi, ça m'a un peu troublé. Et puis, c'est cette étrangère qui déboule là-dedans, Virginie Le Doyen, qui est un peu paumée, qui part à la recherche de son ex-petit copain, qui joue extrêmement mal. Ils sont très mal dirigés.
Ouais. C'est chaud, hein.
Voilà, Edouard Yang n'est pas forcément un directeur d'acteur pour des étrangers, ça je pense qu'on peut pas dire le contraire.
En tout cas sur ce film-là...
après, c'est son seul film. Hein,
mais Virginie Le Doyen est très bien par exemple, je trouve.
Je trouve pas que dans leur scène d'engueulade ça marche.
Non mais parce que...
Elle est bien en présence, mais,
oui, non, mais
pas dans le dialogue.
Je suis d'accord que ça marche pas très bien, mais après tous les jeunes, même s'ils sont... C'est vrai qu'ils sont assez affreux, il y a quand même une espèce de punition à un moment ou à un autre. Mais il y a des séquences, moi, que je trouve géniales, puis surtout que c'est un peu... ça, dans ce film-là, ce qui est sympa, c'est que ça... Enfin, ce qui est sympa. Ce que j'ai bien aimé dans sa structure, c'est qu'il y a une espèce, c'est un peu de Rorschach, c'est-à-dire ce qui se passe au début revient à la fin, mais en négatif. Et en fait, par exemple, il y en a un que j'ai adoré la séquence, c'est une espèce de gigolo qui arnaque les meufs. Et en fait, il met la pression aux meufs, etc. Et puis un jour, il tombe sur, je sais pas, une dame qui a genre 40-45 ans, alors que normalement, il arnaque plutôt des jeunes filles. Et en fait, la meuf va l'utiliser, et au tel point qu'il va s'effondrer en pleurs, quoi, comme un bébé, quoi. Et il y a des séquences comme ça de retour de bâton qui sont non pas jouissives, mais qui sont il n'est dans Mahjong, en tout cas je trouve qu'il est vraiment pas tendre avec ses personnages. Et puis par contre, après, là où je suis d'accord, c'est que, mais je trouve que c'est ce qu'on peut dire de beaucoup de ses films en vrai, à Paris et Brighter Summer Day, c'est ce que tu disais déjà, c'est que dans les films un peu plus courts, je trouve personnellement que sa structure narrative est parfois très artificielle. C'est-à-dire que je comprends ce qu'il veut dire. En fait, je comprends exactement ce qu'il veut dire, pourquoi il veut le dire, comme il veut le dire. Mais du coup, il y a, alors, non pas que ces films soient classiques, mais par contre, je vois exactement étape par étape. Là, quand j'ai vu Terrorizer avec une pote, j'ai dit bon, bah voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passait. Et c'est exactement ce qui se passe. Et non pas que ce soit mal écrit, c'est écrit très classiquement et on comprend bien tout, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de cohérence. Par contre, dans ces explosions de violence ou dans certaines caractérisations, je trouve que tout ne marche pas et tout ne marche pas bien, et on sent qu'effectivement, je sais pas s'il veut aller vite ou si simplement, effectivement, il n'arrive pas à s'épanouir dans une durée plus courte. En tout cas, ça ne change pas que il y a une espèce d'artificialité qui se dégage de ses films, alors que quand on voit Yi et Brighter Summer Day, c'est tout le contraire qui se passe.
Ouais, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Je sais pas si c'est classique, en revanche. Je pense qu'il écrit des trucs... En tout cas, c'est pas classique dans le sens classique américain du terme.
Non. Classique dans le sens... oui, je me suis peut-être mal exprimé. Écriture classique dans le sens où plutôt un scénario convenu, on va dire plutôt. Un scénario convenu où, moi, personnellement, je vois étape par étape ce qui va se passer, comment d'accord. Il construit le récit. Et j'avoue, j'ai pas beaucoup de surprises en voyant le film. Je vois comment ça va se passer. Et le seul moment où il y a un peu de surprise, bah, c'est ces moments que je trouve, justement, un peu artificiels.
Oui, je comprends. Bah, moi je te retrouve et pas tout à fait. C'est-à-dire que je trouve ces histoires un peu emmêlées. De manière un peu inattendue, et moi c'est un peu ça qui me fatigue, tu vois, c'est-à-dire qu'on suit un personnage puis un autre, ça crie beaucoup aussi, il y a un côté un peu brouillon, un peu fatigant et difficile à suivre. Avec, en revanche, ça je crois qu'on est assez aligné là-dessus dans tous ces films, des pauses quoi, de visuels avec des très beaux moments. Bah, à la fin de Mahjong, moi je la trouve visuellement dingue dans la nuit, les longues focales et tout avec les lumières derrière, c'est sublime, tu vois,
dans le marché
ouais. Après, tu sais, Taipei c'est une grande ville de marché nocturne où vraiment il y a des dizaines de marchés nocturnes. C'est vraiment une ville, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, qui mérite d'être visitée de nuit, quoi. Vraiment la journée commence la nuit, c'est très étonnant, et ça se ressent beaucoup là-dedans, dans Mahjong. Mais après, effectivement, et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à regarder le film, découvrir Edward Yang en regardant Yi Yi. Et donc, là, pour le coup, on s'y retrouve narrativement. Et c'est pour ça que j'étais un peu perdu ensuite.
Aligre FM 93.1.
Et c'est donc Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country sur Aligre FM 93.1. Et on est sur un spécial Edward Yang. Et tout de suite, je laisse le micro à Charles pour sa chronique musicale.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe que j'ai adoré, que j'adore toujours en vrai, qui est un groupe de cœur que j'ai eu la chance de voir à l'Olympia. Je crois que Thomas, je te l'ai beaucoup fait écouter aussi quand on a fait des road trips aux US tous les deux. Ce groupe, c'est Black Rebel Motorcycle Club, qui pour les 20 ans de son troisième album qui s'appelle Howl, H-O-W-L. Pour ses 20 ans, du coup, ils ont décidé de faire une tournée mondiale pour faire l'entièreté de l'album en live. Et je vous avoue que, bon, en dehors de bien sûr d'aimer quand même beaucoup de leurs albums, Howl a ce truc particulier qui est que c'est un groupe de rock qui est passé à l'Americana sur le troisième album, c'est-à-dire que les deux premiers, c'était vraiment de la poussière, c'était cracra, c'était vraiment de la guitare saturée. Troisième album, tout le monde les attend au tournant, certainement en 2005. Et ils passent à quelque chose de totalement différent. Donc à ce style très Americana. L'Americana, pour le rappeler, c'est un genre musical qui rassemble plein de genres qui vient des États-Unis. C'est-à-dire, ça peut être le bluegrass, le gospel, le rock, le blues. Et on va mélanger tout ça. Et ça va donner ce style Americana. Là, je vais vous présenter deux morceaux qui font partie un peu de mes chouchous. Ou vraiment, pareil, en live, c'était incroyable. Je vais vous faire écouter le premier morceau qui s'appelle Shuffle Your Feet et le deuxième s'appelle Ain't No Easy Way. Ce sont deux morceaux, vous allez voir, un qui est plutôt doux, un qui est plutôt, on va dire, un peu plus rock. Et où vous allez voir tout le talent des Black Rebel Motorcycle Club. Out on the corner with cast iron blood, 10,000 or more with hearts on the run. They say I might die and I may be cold. I may have no Jesus, I may have no soul. In prison I hear there's time to be good, but the first thing you see is the last thing you should. Well, I've seen the battle, I've seen the war, and the life in here is the life I've been told. Yeah, I've seen the battle, and I've seen the war, and the life out here is the life I've been sold. They say there's a passing where I'll stand to judge, but the devil's waiting with Christ like the sun. When the look comes your way, best say it was I. For the reasons you hold, give reasons to die. The calling's impatient when cause never won, but the last one to say it may last through the flood. Well, I've seen the battle and I've seen the war, and the life in here, the life I've been sold. Yeah, I've seen the battle and I've seen the war, and the life out here is the life I've been told.
We'll be right back.
Aligre FM 93.1.
Et vous êtes donc encore et toujours sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country et qui est sur Aligre FM 93.1. Alors, on va remettre un peu de l'ordre dans nos pensées, hein, parce que ça part un peu dans tous les sens. Et on va cibler le propos sur le dernier film de Edward Yang, qui s'appelle Yi-Yi. Yi-Yi, c'est donc un prix de la mise en scène, hein, l'an 2000, donc reconnaissance internationale, critique, publique. Voilà, c'est un petit peu l'apogée de la carrière de Edward Yang. Yi-Yi, c'est une... Enfin, comment tu définirais ça ? Une fresque, hein, une très grande fresque ?
Une fresque familiale.
Une fresque familiale, exactement. C'est une fresque familiale qui s'écoule sur une durée relativement courte quand même. Hein. C'est pas sur plusieurs années, hein. C'est vraiment une continuité sur de courte durée. Et puis on suit le point de vue, alors là, de toute la famille, de chaque personnage indépendamment les uns des autres, et puis de leur vie ensemble. Donc on a le petit garçon, voilà, le plus jeune.
Je crois qu'il s'appelle Yang Yang.
On a le père, la mère, la grande sœur, la grand-mère et on va dire le proche voisinage aussi de tous ces gens-là. Bon, Yi, déjà, énorme. Pour moi, c'est le plus beau travail plastique des films d'Edward Yang que j'ai vu. Il y a une rigueur aussi, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur des capsules où tout soudainement il y a 3 minutes de beauté. Là, on est vraiment sur un film totalement maîtrisé.
C'est certainement son film le plus abouti, et comme tu disais, et comme disait certainement du coup Asayas, il a attendu 6 films pour faire celui-là. Dans Brighter Summer Days, moi je le trouve très beau aussi et très touchant, et moi je l'ai préféré, mais certainement de très peu. Mais Yi, effectivement, c'est beau de bout en bout, et puis il y a vraiment une vraie poésie. C'est un film aussi qui est là vraiment qui n'est... Ah bah, tu me diras si en fait il est un peu violent quand même à un moment. J'ai oublié ce détail, d'un coup ça revient. Mais c'est vraiment...
Il a une forme de poésie douce aussi.
Bah, c'est une grande fresque poétique, de toute façon, sur en fait les imbrications familiales. Et à part la mère qu'on voit en fait finalement très peu, parce qu'elle est un peu brisée par le coma de la grand-mère. Parce que bon, on vous dit pas trop de trucs, mais c'est tellement foisonnant que c'est compliqué de dire de quoi ça parle exactement, à part que c'est une fresque familiale et on va voir effectivement toute la famille. Mais moi, j'adore l'arc narratif du père, que je trouve magnifique, où il retrouve un amour de jeunesse. Le petit garçon, lui, il essaie de découvrir la vérité par tous les moyens. Il essaie de montrer aux gens ce qu'on ne voit pas. Donc, il prend en photo le dos des gens et l'arrière des crânes.
Oui, c'est-à-dire il s'intéresse à ce que les gens ne peuvent pas voir d'eux-mêmes. Ouais. Et donc, il a une... Alors, c'est un très jeune garçon, hein, qui doit avoir, quoi, 6-8 ans, quoi, ouais, max, hein. Et qui récupère un appareil, je crois que c'est un Polaroid, et puis en gros, c'est pas un Polaroid, parce qu'il va chercher les négatifs. Ouais, c'est pas du tout un Polar. C'est un appareil argentique, et effectivement, il photographie la nuque et le derrière des têtes des gens qu'il rencontre, et pour ensuite leur donner leurs photos, qu'ils puissent voir et comprendre ce qui les habite derrière eux, quoi. C'est vraiment très touchant.
Et ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai revisionné un peu rapidement, j'avoue, mais je l'ai revisionné un peu quand même. Il y a quelques jours, et en fait, ça, c'est là où j'adore, parce que quand même, c'est des films qui sont très longs, tu revois tout le temps et tout le temps des détails, et en fait, le début du film se passe, en fait, c'est un mariage d'un cousin, qui est assez important dans l'histoire, parce qu'il se fait arnaquer, il a besoin de thunes, etc. Et en fait, dès le début, il y a une photo de famille, et on voit le gamin, et en fait, il y a des petites gamines derrière qui lui mettent des chiquettes. Dans le, tu sais, derrière les oreilles là, ou je sais pas quoi. Et donc il se retourne et il voit pas ce qu'il y a. Et dès le début du film, en fait, on voit ce qui va habiter en fait cet enfant pendant 3 heures, quoi. Donc il y a des petits détails comme ça, mais partout. Et c'est doux et vraiment. Mais moi, l'arc du gamin, il est hyper touchant. Mais le gamin fait, c'est pas qu'il fait faux, mais c'est que vraiment il est beaucoup trop brillant pour son âge, quoi. Il y a un truc très bizarre quand il parle à son père, tu te demandes ce qui se passe, comment c'est possible. Mais en tout cas, en global, c'est un film qui est vraiment qui est assez incroyable, hein.
J'ai envie de rebondir sur deux choses que tu dis. En fait, moi je trouve que le gamin il fait le film quelque part aussi. Chaque scène avec le gamin, tu as un espèce de sourire et tu sais qu'il va se passer un truc à plein de niveaux, c'est-à-dire de l'ordre de la poésie, de l'ordre de la beauté, de l'ordre. Mais oui, c'est sûr que le gamin il a des réflexions. C'est un sage, c'est un philosophe. C'est vraiment la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, ben là vraiment on peut pas dire le contraire. Mais quand même, moi je le trouve. En fait, ça m'a pas traversé qu'il était pas forcément pas crédible. Je le trouve tellement.
Ah non, non, j'ai pas dit qu'il était pas crédible, mais c'est juste que c'est un peu ma petite limite avec ce personnage-là, mais je l'adore aussi. Et puis même, Edward Nyang joue sur certains trucs, là, quand il y a une séquence de piscine où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des séquences comme ça où il arrive à jouer justement avec ce truc de putain, il est quand même. Il peut faire une connerie aussi de temps en temps.
Ah ben moi ça m'a cette séquence m'a fait extrêmement peur. Et d'ailleurs ça alors ça c'est une séquence de piscine où on va pas la raconter en entier, mais voilà, tout d'un coup ce jeune garçon s'émourache d'une nageuse et donc il décide d'apprendre à nager un peu par ses moyens. Donc on voit dans d'autres scènes dans son bain ou non il est sur le robinet de la, enfin en gros il se chronomètre en allant sous l'eau, etc. Il est dans le robinet, il plonge sa tête dans le robinet de la salle de bain et donc on comprend que voilà que il va essayer de retrouver cette jeune femme à la piscine. D'ailleurs est-ce que tu te souviens juste rapidement de la scène où il tombe amoureux de cette fille qui est sublimissime?
C'est quand il rentre dans
la salle de projection.
Il a fait une bêtise. Bah, pour moi, c'est le plus beau plan du film en vrai.
Oh là là. Et il y a ce plan de cette jeune fille
dans l'orage ou dans
avec l'orage qui est projeté derrière. Oh, ça, mais alors ça, c'est un très 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 grand moment de cinéma. Et donc ce jeune garçon, évidemment, à un moment, il y a un plan où il est seul face à la piscine, et puis nous spectateurs, on est un petit peu tous terrifiés, et il se passe quelque chose d'assez flippant et qui m'a beaucoup énervé. Enfin, j'étais vraiment en mode non, là, c'est pas possible. Et il fait pas mal ça, Edward Yang aussi. Et c'est là où tu remarques aussi que, parce qu'on est assez envoûté par ces films et on passe un très bon moment. Moi, ça m'est arrivé dans Brighter Summer Day, par exemple. Le film dure très longtemps. Il y a une forme un peu de, je vais pas dire d'hypnose, mais tu sais, il y a une forme d'envoûtement, de laisser aller. Parce que c'est pas un film lent, c'est un film lent, mais c'est pas un film long.
Oui, mais
tu vois ce que je veux dire ou pas?
Pour moi, c'est le genre de film où c'est autorisé. Alors, oui. Attention, je vais dire un truc peut-être un peu compliqué.
De dormir.
Ouais, exactement. Pour moi, c'est autorisé. Et après, tu le revois. Il n'y a pas de souci. Tu le revois deux fois, trois fois. Mais c'est le genre de film, ça dure 4 heures. Parce que tu sais bien qu'en une demi-heure, il ne va rien se passer de plus, en fait, parfois. Non, mais il y a un truc comme ça. Il faut se le dire. Les bons films, de toute façon, tu peux t'endormir devant parce qu'il y a un truc un peu cool, tu vois. Et Edward Yang. Alors, moi, je ne me suis pas endormi, il se trouve. Quand même, je le dis, je ne me suis pas endormi. Mais. Tu vois, il y a des moments comme ça où on t'autorise à rêver un peu. Je pense.
Moi je trouve que pour Yi, je suis moins d'accord. Mais peut-être pour Brighter Summer Day. Mais en tout cas, il y a cette scène dans Brighter Summer Day, je ne sais pas si tu te souviens, où il y a cette jeune femme qui joue avec un pistolet, un Colt 45. À un moment, ils ont tous trouvé des armes 19-11. Et puis, elle vise son pote. Et en fait, il y a évidemment, moi je suis en panique totale. Et puis, il y a un coup de feu qui part. Et une balle dans le flingue. Et typiquement ces scènes-là, et elles me renvoient un peu à la scène de la piscine, moi, dans le côté naïveté de la jeunesse qui joue avec le danger, et tout d'un coup le danger les rattrape. Et moi, je trouve que ces scènes-là, c'est ça qui me montre à quel point je suis pris dans le film, parce que c'est des scènes qui m'énervent, enfin qui me font très peur et qui me bousculent vraiment. Et je me dis que bah, forcément l'envoûtement Edward Yang fonctionne, parce que je suis tellement révolté par ces scènes-là que ça marche. En tout cas, personnage de ce jeune chinois, dont d'ailleurs, enfin taïwanais, dont je sais pas si tu te souviens, le film se termine sur lui dans une dernière scène extraordinaire où il parle à sa grand-mère, sublime, très mature. Et puis rebondir sur ce que tu dis sur le personnage du père et son arc narratif, que je trouve évidemment aussi vraiment vraiment intéressant, puisqu'il redécouvre cet amour de jeunesse. Ils partent ensemble. Merde, je sais plus où, mais ils partent ensemble.
Ils partent au Japon.
Ah, ils partent au Japon, exactement.
Oui, bah il y a une espèce de grand hommage au cinéma du coup japonais à ce moment-là.
Bien sûr, ouais, bien sûr, ils partent au Japon. Et je sais pas si tu te souviens, mais quand il revit cette histoire d'amour avec son amour de jeunesse, espèce d'histoire d'amour qui en même temps n'aboutit pas et en même temps aboutit, enfin qui est très beau. En parallèle, il y a sa fille qui vit une histoire d'amour, et je trouve ça hyper beau parce que le montage des deux histoires d'amour se répondent. Et en fait, les deux redécouvre ou découvre l'amour, pas toujours d'ailleurs d'une belle manière pour la fille, mais en tout cas il y a c'est très 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 joliment et sensiblement construit le rapport de ce père et de sa fille qui à distance dans deux pays différents revivent une très forte histoire d'amour. Je trouvais ça magnifique.
Aligre FM 93.1.
Oui, non, mais puis alors moi je suis un peu moins subjugué par l'histoire d'amour de la fille parce qu'effectivement elle est un peu plus dure, on va dire, et puis surtout
c'est vraiment, très dure.
C'est vraiment waouh, ça décoiffe un peu quoi. Mais par contre moi le père, mais vraiment moi c'est mon personnage chouchou du film quoi. Déjà parce qu'en fait en fait dans son arc narratif il y a en même temps un problème avec sa femme, en tout cas il retrouve son amant de jeunesse et donc en fait il a envie de savoir si oui ou non il a fait le bon choix en fait. C'est ça qui est très fort, c'est il doute de sa famille et est-ce que s'il avait en gros une seconde chance, est-ce qu'il la prendrait ? Et il y a un dialogue de fin là-dessus que je trouve trop beau. Mais en même temps de ça, en fait, il bosse aussi dans une entreprise. Enfin, en tout cas, il l'a créé avec des associés. Et en fait, les associés veulent faire un partenariat avec en gros un groupe cheapos, un peu d'arnaque ou je sais pas quoi. Et lui, en même temps, il rencontre justement un investisseur japonais qui, lui, est très carré, qui est musicien. Et en fait, ils vont avoir des dialogues entre les deux aussi, mais qui sont... d'une finesse et d'une douceur.
Oui, il se noue une histoire d'amitié entre les deux et d'égalité en fait, et qui dépasse simplement la rencontre de business.
Oui, complètement. Et puis du coup, en fait, ce truc, pas moralisateur, mais en tout cas, on voit apparaître en fait la moralité d'un homme et jusqu'où il va aller pour essayer de se construire de nouveau à la quarantaine peut-être passée. Il y a quelque chose comme ça où en même temps, en fait, d'un coup, il va devoir, d'une manière ou d'une autre, ou pas d'ailleurs, se réinventer dans son travail et dans sa vie intime. Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il veut passer le pas ? Est-ce qu'il va se laisser faire ? Et il y a du coup, je pense sincèrement que c'est le personnage, de toute façon, le plus développé du film. Parce que le petit gamin, il est développé, mais il y a quelque chose de plus de l'amusement et de l'étonnement dans ses séquences. C'est un peu les séquences vraiment un peu rigolotes du film.
Ouais, la fin quand même est...
Non mais bien sûr, elle est poignante, mais parce que... Bon, il faut bien finir le film, mais je suis d'accord. Mais le père, lui, a un arc narratif vraiment complètement abouti qui, en fait, va bercer tout le film, finalement.
Et puis, il y a ce personnage quand même de la grande sœur, donc qui vit aussi son histoire d'amour, qui est très dure. Hein. Moi, je ne suis pas du tout, évidemment, aligné avec ça, mais j'aimais bien le... Je précise quand même, parce qu'il se passe des trucs vraiment durs, mais je précise, mais le parallèle était intéressant entre le père et la fille, quoi, qui découvre des choses. Mais ce personnage de cette fille, à qui il arrive beaucoup de malheurs, en fait. Hein. Et puis, il faut savoir que dans la maison familiale, il y a le personnage de la grand-mère qui est dans le coma les deux tiers du film. Dans une chambre. Et cette jeune fille, elle se sent responsable du coma de sa grand-mère parce que je crois qu'elle a pas descendu les poubelles.
Ouais,
et donc la grand-mère a descendu les poubelles et il y a eu un accident. Et en gros, la grand-mère est tombée dans le coma parce qu'elle a fait une tâche ménagère qu'aurait dû faire la fille. Et donc, il y a cette espèce de culpabilité... très dur sur le personnage de cette fille et qui va traverser le film. Donc c'est une jeune adolescente, hein, c'est une fille qui doit avoir 16 ans quoi, tout cassé quoi, 15-16 ans, et qui traverse tout, peut-être même plus 15 que 16, et qui traverse tout le film avec cette culpabilité, et résultat elle subit beaucoup de choses qui lui arrivent et qui sont vraiment dures. Et il y a cette dernière scène entre elle et sa grand-mère, j'en ai des frissons hein, vraiment en vous en parlant. C'est une scène qui est sublime, où soudainement la grand-mère se réveille et la fille peut enfin demander à la grand-mère si elle lui pardonne, et elle communique en fait en physicalité, hein. La grand-mère lui caresse le visage ou la main, enfin ça passe par le tactile hein, plus que la parole, mais c'est très 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 beau. Et je me souviens de je crois la dernière phrase de la fille à la fin de cette espèce de retrouvaille, où elle lui dit elle dit à sa grand-mère maintenant je suis heureuse quoi, ou je suis joyeuse, et c'est très très touchant. Et évidemment on ne sait pas vraiment si la grand-mère s'est réveillée, si c'est un rêve ou pas. Mais c'est superbe quoi. Il y a une espèce de lâcher prise total qui est très puissant.
On le sait quand même, hein, on sait ce qui se passe, mais en tout cas non.
Il y a quand même l'objet, il y a un bracelet ou il y a un objet qui laisse le doute sur le fait qu'elle aurait peut-être quand même eu ce rapport avec sa grand-mère.
Ah d'accord.
Moi j'ai envie de croire que il y a quand même un truc bizarre.
Il y a un truc un peu.
C'est un peu entre les deux quand même.
Il y a un truc un peu rêveur là-dedans.
Oui, oui.
Mais c'est surtout effectivement en fait pendant tout le film en fait la gamine surtout ne va pas réussir à dormir en fait de culpabilité. Et en fait la phrase de fin c'est peut-être que t'as raison, peut-être que c'est je suis enfin heureuse, mais pour moi c'était je peux enfin dormir.
Oui, je crois qu'il y a ça aussi. Il y a les deux, je crois. Qu'il y a les deux. Ouais, ouais.
Et je trouve ça. Et en fait, je trouve effectivement cette séquence, elle est magnifique parce que la pauvre gamine, vraiment, est celle qui s'en le plus plein la gueule, franchement, dans le film. Et cette séquence un peu d'apaisement, en fait, effectivement, où elle peut enfin littéralement se reposer, c'est vrai que c'est une séquence qui est assez magique dans le film.
C'était donc un spécial Edward Yang. Pour conclure, Charles, je pense que et toi et moi, si on devait en recommander chacun un, ce serait Brighter Summer Day peut-être pour toi.
Oui, bah comme ça tu peux conseiller.
Exactement. Et Yi pour moi, un cinéaste sensible, un cinéaste important historiquement, et puis un cinéaste dont tout l'aboutissement de sa carrière. Parfois, il y a des cinéastes vraiment qui se foirent un peu hein, sur leur dernier film. Edward Yang, clairement, c'est son dernier segment, c'est-à-dire vraiment Brighter Summer Day 91 et Yi 2000, et sachant qu'il y a Mahjong entre les deux, que moi je trouve un peu un ratage, mais deux très très grands films en fin de carrière, et puis parsemés de plein de films, de plein d'idées et de plein de directions différentes, et toujours intéressant. Je sais pas si tu veux rajouter des choses.
Écoute, je pense que t'as un peu tout dit, effectivement, on peut rappeler, de toute façon, qu'on a eu la chance de les voir dans une belle restauration chez Carlotta, du coup, avec un joli coffret qui est sorti sur Yi, et puis après, Edward Yang, l'autre coffret, c'est... Il y a combien de films déjà? Il y en a 4 au moins? Ouais, il y a 4 films, donc il y a The Terrorizer, Confusion chez Confucius, que je n'ai pas vu, j'avoue, et Mahjong.
In Our Time, qui est un film avec 4 cinéastes taïwanais.
Et en tout cas, c'est vraiment une découverte. Et en plus, ça fait partie de ces réals où vraiment je vous conseille de voir les films dans l'ordre quasiment. Parce que vous allez voir, c'est là, déjà, on comprend vraiment bien ce que c'est la politique de l'auteur. On comprend vraiment ce que c'est aussi d'évoluer. Parce qu'il faut se rappeler quand même, en dehors du fait que ça soit quand même un travail artistique, bah on est pas artiste, on le devient petit à petit, quoi. Et clairement, Edward Yang, au fur et à mesure de sa mise en scène, au fur et à mesure de ses scénarios, au fur et à mesure de son style narratif et visuel, eh bien en fait, il va, c'est du boulot, quoi. Et en fait, il va évoluer, et il va évoluer comme vers quelque chose de grand cinéaste, quoi.
Et d'ailleurs, je crois que beaucoup de cinéastes internationaux s'accordent à dire qu'il est parti trop tôt et que c'est vraiment dommage parce que qu'est-ce qu'il aurait pu faire après un film comme Yi, quoi. Et c'est marrant que tu dis ça, j'en parlais avec Walter Hill, c'est toute la problématique du cinéaste, c'est-à-dire que à l'époque des fondateurs d'Hollywood, enfin pas des fondateurs, mais disons la première grande génération d'Hollywood, les mecs faisaient les John Ford, etc., faisaient 130-140 films, et puis 20 ans après, plutôt 30-40, et puis génération de Walter Hill, donc années, disons, 80, une vingtaine de films, et puis nous, notre génération, si on en fait 10, on a de la chance. Et justement, il y a des cinéastes comme Orson Welles qui maturent très vite, hein, et qui font des chefs-d'œuvre dès leur premier film. Mais par exemple, John Ford, il a 40 films avant que sortent ses chefs-d'œuvre. Donc, c'est un art dans lequel il faut parfois du temps. Et Edward Yang, on a l'impression effectivement qu'il se teste, qu'il essaye des choses dans plusieurs de ses films. Il a cette possibilité-là aussi. Et puis, il trouve un espèce d'aboutissement dans Brighter Summer Day et dans Yi. À noter aussi, toujours chez Carlotta, le livre Le cinéma d'Edward Yang, hein, pour ceux qui veulent prolonger et continuer leur réflexion et leur intérêt sur ce cinéaste. Hein. Donc, c'est signé Jean-Michel Frodon, qui était quand même un journaliste et rédac-chef des Cahiers du cinéma. Alors, dans le bouquin, il y a des œuvres critiques, des entretiens des témoignages en fait, hein, avec des très grands cinéastes comme Jia-Jiang Creux, Martin Scorsese, Hu Xiaoxian. Il y a des études du cinéma de Edward Yang par Olivier Assayas, qui était vraiment très très proche, hein, de Edward Yang, et puis évidemment une présentation de sa vie et de son œuvre, hein, par Jean-Michel Frodon. Donc voilà, c'est l'année pour redécouvrir ou découvrir Edward Yang de la meilleure des façons avec tous ses supports physiques et puis toutes ses analyses supplémentaires. Voilà, Popcorn et Banjo, c'est terminé. Charles, tu ajoutes rien ? Tu veux rien ajouter ?
Non, au revoir.
Eh bien, au revoir et puis bonne fête.
Oui, c'est vrai ça. Bonne fête à tous.
Merci d'être avec nous et à la prochaine. Salut, salut. Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.